C'est du jus de raisin. Alors, Simon, il va faire le cobaye. Tu peux y aller tranquillement, c'est du jus de raisin. Tu nous confirmes ?
Je confirme, ouais, c'est du jus de raisin.
Bon. Maintenant, j'ajoute un peu de citron. C'est marqué citron. C'est aussi marqué nettoyant multi-usage. Juste un peu. Ça donne moins envie quand même tout de suite, hein.
Ah, là.
Oui. On va pas boire, hein.
On va éviter.
Tu vas aller jeter ça. Ouais. Ça nous évitera de nous intoxiquer puis d'intoxiquer d'autres. Du vrai jus et puis quelque chose qui a un parfum citronné mais qui n'est pas à boire, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça dans la vie chrétienne. On est censé produire du fruit et puis il y a d'autres choses qui viennent se mélanger aux fruits que nous devons produire dans la vie chrétienne et qui nous rendent malades ou qui peuvent rendre malades les autres. Je reprends ce matin notre série de prédications sur l'épître de Paul aux Galates, la lettre de Paul aux Galates. Et je vous invite à trouver le chapitre 5. Nous avons déjà commencé à lire ce chapitre. Galates, chapitre 5. Et nous suivons ensemble, depuis le début de ce chapitre, le thème de la liberté chrétienne. Dit autrement, de la vie en Christ. L'apôtre Paul dit à ses chrétiens galates que sans le Christ, ils vivent dans l'esclavage, sous la malédiction de la loi. Mais il leur dit aussi, Jésus-Christ vous a libérés de cet esclavage, en prenant sur lui, à la croix, cette malédiction, cette condamnation. Et en parcourant cette lettre, et en arrivant au chapitre 5, nous avons déjà lu les avertissements de Paul par rapport à la liberté chrétienne. Paul nous dit que certains chrétiens dans les églises de la Galatie font de cette liberté un nouvel esclavage. Il dit, chapitre 5, verset 1, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » C'était une tentation pour ces chrétiens de revenir à un esclavage spirituel. Et un petit peu plus loin, nous voyons Paul avertir de nouveau l'Église où certains font de cette liberté un prétexte pour faire ce qui est mal. Et c'est ce que nous avions vu dans la dernière prédication. Verset 13 du chapitre 5. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. » Ou peut-être dans la traduction que vous avez sous les yeux, « pour vivre selon la chair ». Paul nous dit que la vraie liberté chrétienne, c'est la maîtrise de soi. C'est le service du prochain par amour, verset 14. C'est l'obéissance à la loi de Dieu. C'est ça que nous avions vu dans la dernière prédication sur cette lettre. La question que nous allons aborder ce matin, c'est comment est-ce que c'est possible concrètement, de vivre la liberté chrétienne. Et nous allons reprendre notre lecture, donc dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16, et jusqu'à la fin du chapitre, au verset 26. Galates 5, à partir du verset 16. « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, alors vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Ce sont l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que je vous ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons donc l'Esprit aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Le thème de la prédication ce matin, c'est « Une vie fructueuse ». Une vie fructueuse. Je posais la question tout à l'heure. Comment vivre libre ? Comment apprendre à être maître de soi ? Comment apprendre à aimer son prochain ? Ces choses que nous avons vues la dernière fois. La réponse vient ici dans ce texte. C'est grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Peut-être vous avez remarqué, le Saint-Esprit ou le mot « esprit » apparaît plusieurs fois dans ce texte. Comme si ce texte était lui-même rempli du Saint-Esprit. C'est le personnage principal, c'est la vedette ici dans le texte. Et c'est à lui que nous allons nous intéresser ce matin. Nous allons suivre brièvement ces sept moments où le Saint-Esprit apparaît dans le texte. J'ai regroupé certains et je vais donc diviser cette prédication en cinq temps. Premier temps, c'est ce que Paul dit au verset 16. Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Je vous dis donc ceci, marchez par l'Esprit ou laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Le verbe « marcher » dans la pensée juive, Paul est juif, c'est lié au comportement. C'est pas seulement marcher dans la rue. Par exemple, dans le premier des psaumes, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Voyez ces verbes, marcher, s'arrêter, s'asseoir, il y a même une progression peut-être dans le mal. Marcher sur un mauvais chemin, s'y arrêter et puis s'y asseoir, s'y installer d'une certaine manière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Marcher selon le conseil des méchants, ça veut dire se laisser entraîner à faire le mal par des personnes qui sont mal intentionnées. Eh bien ici, dans notre épître aux Galates, marcher par l'Esprit, cela veut dire se laisser entraîner par le Saint-Esprit à faire le bien, à bien agir, à bien se comporter, conformément à la parole de Dieu, à sa volonté. C'est ça, marcher par l'Esprit. C'est suivre la direction du Saint-Esprit et non pas nos propres valeurs ou les principes des autres personnes autour de nous. marcher par l'Esprit. Remarquons une deuxième chose. Ce verbe est à l'impératif. Marcher. Ce n'est pas une option. C'est un ordre sous la forme d'un appel. Si l'on est appelé à la liberté, eh bien la mise en pratique de cet appel, c'est une vie qui correspond à cet appel. Et là, j'aimerais tirer une première réflexion pour nous ce matin. À ceux parmi nous qui ne sont pas chrétiens, qui peut-être cheminent ou qui sont en train d'errer, parce que des fois on a l'impression de cheminer spirituellement, mais d'où partons-nous et où allons-nous ? À ceux qui peut-être parmi nous sont indécis et ne savent pas trop où ils en sont spirituellement. Ce texte ici, et Dieu au travers de cette parole ce matin, nous appelle à nous tourner vers lui pour recevoir son esprit et marcher par l'esprit. C'est comme si Dieu vous disait, vous vivez sans moi, détournez-vous du mal et vivez avec moi, je vous donne mon esprit. Vous voyez, vous entendez cet appel de Dieu ? Dieu veut nous donner son esprit. C'était le thème de notre année 2013-2014. Le verset est encore affiché ici au mur. Seigneur, apprends-nous à prier. C'est la demande des disciples à Jésus lorsqu'ils voient Jésus prier. Et Jésus leur donne comme prière modèle, on va dire, la prière du Notre Père. Et il donne aussi cette parabole ou cette comparaison. Écoutez, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Dieu veut nous donner son Esprit pour que nous vivions avec lui, pour que nous marchions par l'Esprit. Ça, c'est l'appel adressé à ceux qui parmi nous ce matin n'appartiennent pas encore au Christ. Et puis pour les chrétiens, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux en qui l'Esprit de Dieu habite, ce texte de Paul aux Galates nous rappelle ce matin, comme si Dieu nous disait « Mon Esprit vit en vous ». Alors, vivez selon mon Esprit, vivez selon ma volonté. Si vous êtes tombé, relevez-vous et remettez-vous en route. Marchez par l'Esprit. C'est un appel à l'impératif. Un impératif sous forme d'appel pour agir ou pour réagir bien. Alors on pourrait se demander pourquoi cet appel à marcher par l'Esprit ? Et la réponse vient dans la suite du texte. C'est parce qu'il y a un combat intérieur à mener dans la vie chrétienne. Et c'est ce que Paul dit ici aux Galates. C'est le deuxième temps de cette prédication. Je reviens au verset 16 du chapitre 5 des Galates. « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, marchez par l'Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, ou au désir de la chair. Car ces désirs sont opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. » Deux fois l'esprit est nommé ici, dans ces versets. Petit rappel, la chair, ou vivre selon la chair, c'est faire ce que nous sommes capables de faire selon les moyens dont nous disposons naturellement. Ce sont nos pensées, nos sentiments, nos choix, nos actions, etc., dans lesquels Dieu n'intervient pas de manière particulière. Ce sont les capacités de l'être humain sans intervention spéciale de Dieu. Le problème, c'est que le mal, le péché, s'engouffre dans les limites et les fragilités de notre chair et nous pousse à penser, à choisir, à agir contre Dieu et non pas avec Dieu, pour Dieu. Si bien que finalement, vivre naturellement, vivre selon la chair, c'est vivre contre Dieu et non pas selon l'Esprit de Dieu. Il y a donc une opposition ici entre une vie humaine naturelle et une vie humaine avec Dieu, selon son Esprit. C'est l'opposition dont Paul parle ici. La chair désire contre l'Esprit et l'Esprit désire contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, dit Paul. Voilà la réalité de la vie chrétienne. Elle n'est pas encore parfaite. Elle est prise dans une lutte, un combat intérieur, dans lequel deux tendances s'affrontent, s'opposent. Il y a d'un côté ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire, qui plaît à Dieu, qui est conforme à sa parole et à sa volonté. Et il y a d'un autre côté ce que notre moi, pécheur et orgueilleux, oppose encore comme résistance à l'Esprit de Dieu. Et donc, dans ce conflit, nous ne faisons pas ce que nous voulons. C'est ce que dit Paul ici. Vous avez vu cette phrase. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. On peut comprendre cette phrase, me semble-t-il, de deux manières différentes. La première, c'est comme ça que la traduction du Semeur, par exemple, l'interprète, en disant « Il est impossible de faire le bien que vous voudriez. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a le mal en moi. » Malheureusement, nous laissons encore le mal nous dominer. Parfois, ou même des fois souvent, dans certains domaines ou dans certaines situations de notre vie. Et donc, nous ne faisons pas autant de bien que Dieu attend de nous, parce que le mal nous séduit, nous attrape dans ses filets, et non malgré nous, comme nous le disons parfois, mais avec notre consentement. Même lorsque nous disons « c'est plus fort que moi », et il est vrai qu'il y a quelque chose de fort qui nous pousse, le péché. Même lorsque nous disons « c'est plus fort que moi », nous avons décidé quelque part de plier le genou, de céder, de prêter allégeance à quelqu'un d'autre ou à autre chose que l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que nous cédons ? Pourquoi est-ce que nous succombons à la tentation ? C'est une vaste question et il faudrait un certain temps pour en parler. Je ne vais pas le faire maintenant, mais il me semble que le texte que nous lisons ce matin peut nous donner un élément de réponse. Si nous cédons à la tentation, parfois ou souvent, c'est parce que nous résistons à l'autorité du Saint-Esprit en nous. Nous voulons faire, justement comme le dit Paul, ce que nous voulons. Et qui n'est pas forcément en accord avec la volonté de Dieu. Ce que nous voulons n'est pas toujours bien intentionné. D'où le deuxième sens possible, me semble-t-il, pour cette phrase. De sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire tout le mal que vous auriez envie de faire. Et là, nous touchons du doigt un avantage et une différence immense entre chrétiens et non-chrétiens. Le Saint-Esprit aide le chrétien de l'intérieur à bien agir, alors que le non-chrétien reste esclave d'une vie orientée contre Dieu. Vous voyez ça ? Le chrétien, le vrai chrétien, ne peut pas rester indéfiniment rebelle à Dieu. Il vient tôt ou tard à la repentance et reprend sa marche par l'Esprit. Pourquoi ? Paul le dit ici, parce que l'Esprit de Dieu s'oppose à notre moi pécheur. Et l'Esprit de Dieu en nous combat contre nos propres tendances naturelles. Le Saint-Esprit s'oppose à notre moi égoïste et vient nous rappeler que le Seigneur, c'est Jésus, et pas nous. Et si nous péchons, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne remplit pas sa mission, c'est parce que nous voulons encore pécher. Et c'est parce que nous ne sommes pas manipulés ou télécommandés par le Saint-Esprit. Nous sommes vraiment libres. Nous sommes libres d'obéir à Dieu et nous sommes libres de lui désobéir, avec la responsabilité de lui rendre compte de nos actes d'obéissance et de nos actes de désobéissance. Un des arguments classiques pour croire que Dieu n'existe pas, peut-être vous l'avez entendu, peut-être vous l'avez dit vous-même à un moment dans votre vie, c'est de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de souffrance dans le monde. Eh bien, dans le texte que nous méditons ce matin, nous trouvons un contre-argument à ce raisonnement. Nous voyons que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous empêche de faire tout ce que nous voudrions faire, tout ce qui nous passe par la tête ou par les tripes, et heureusement. Heureusement. Est-ce que la question c'est... On pourrait formuler la question ainsi. Est-ce que le monde va mal parce que Dieu n'existe pas? Ou est-ce parce que Dieu existe et qu'il agit par son esprit, que le mal reste limité et ne fait pas autant de dégâts qu'il le pourrait? Voilà la réalité. J'ai un peu insisté sur ce point, je passerai un peu plus rapidement sur les autres. Voilà la réalité de la vie et de la liberté chrétienne. En tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes appelés à la liberté. Nous voulons, nous recevons, nous voulons cette liberté et en même temps, nous la refusons d'une certaine manière chaque fois que nous péchons. Est-ce que c'est une fatalité? Comme dans certaines religions parfois, où on voit une opposition entre le bien et le mal qui maintient les choses en équilibre et qui donc donne au mal sa place dans le monde et du coup le justifie quelque part. Est-ce que c'est ça, la vie chrétienne? Non. Et j'aimerais affirmer ce non en allant plus loin dans le texte. C'est ce que Paul dit ici au verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, on pourrait traduire, si vous êtes chrétien, vraiment chrétien, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi, ou vous n'êtes pas sous la loi. Dans certaines traductions. Paul affirme ici que si nous sommes chrétiens, nous sommes du bon côté, si je puis dire les choses ainsi. Le Saint-Esprit ne joue pas un numéro d'équilibriste avec le mal. Son œuvre consiste à renverser le mal. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, ou plus sous la loi. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Le sacrifice de Jésus-Christ vous a libéré de l'esclavage de la loi. L'esclavage, c'est ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, c'est essayer de prouver à Dieu par nos propres efforts notre propre justice. Et ça, c'est impossible. Dieu nous a libérés de cela à la croix, où Jésus a porté, lui, la condamnation que nous méritions. Alors se pose la question, un chrétien est-il encore esclave du mal? Et là, j'ai envie de vous proposer la réponse suivante. En théorie, non, mais en pratique, oui. En théorie, nous sommes libres. C'est ce que dit Paul au verset 24. Parce que ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ou dans la version « se meurt » que j'ai lue tout à l'heure, « ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » C'est fini. Le chrétien n'est plus un esclave. Il est libre de faire la volonté de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit qui le pousse à faire le bien. Crucifier la chair, ça veut dire reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies. Et c'est ce qui se passe lorsque nous nous convertissons. Lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous reconnaissons qu'il est lui le Seigneur, que nous ne pouvons pas être maître de notre vie, parce que notre vie n'est pas parfaite. Et donc nous confessons que nous sommes incapables de nous justifier devant la sainteté de Dieu et que nous avons besoin de sa grâce. C'est ça l'évangile, c'est ça la conversion, c'est ça se repentir et recevoir une vie nouvelle. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous avons fait cette expérience. Et pourtant, en pratique, nous ne faisons pas toujours le bien. Et il se trouve même que dans certains domaines de notre vie, nous nous remettons dans l'esclavage alors que nous sommes libres. Et Paul nous donne des exemples ici d'esclavage. Et la liste n'est probablement pas exhaustive. Je reprends la lecture au verset 19. « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, ou de la chair. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. » Ça, c'est dans le domaine de la sexualité, d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est l'immoralité aujourd'hui? C'est tout ce qui concerne une sexualité qui s'éloigne de la sexualité voulue par Dieu et que l'on trouve dans la Bible. Une relation sexuelle entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Tout ce qui s'écarte de ce modèle biblique peut être considéré comme immoralité sexuelle. Débauche. Pratique dégradante. Ça, c'est le domaine des relations, et en particulier des relations sexuelles. Idolâtrie, magie. Alors, on n'a peut-être pas de statue chez nous, devant lequel nous faisons des offrandes ou des sacrifices. Mais qu'est-ce qui, dans nos vies, prend la place de Dieu? C'est ça, l'idolâtrie. Qu'est-ce qui, dans nos vies, prend la place de Dieu? Quels sont nos restes de superstition, voire de magie, dans notre vie de prière, dans la manière dont nous imaginons que Dieu va agir dans nos vies? Et puis, il y a d'autres choses qui concernent les relations sociales, les haines, des choses qui sont dans notre cœur peut-être, des querelles, avec qui est-ce que nous nous disputons? Notre conjoint, nos enfants, nos collègues, les jalousies, ceux qui ont eu une promotion et pas nous, les accès de colère, quand ça explose, quand on nous a mis en colère et paf, ça part d'un seul coup. On regrette peut-être après, peut-être même rapidement, mais le mal est fait. On a dit, on a insulté, on a pensé et dit des mauvaises choses. C'est sorti, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Et puis, il y a des choses qui concernent, on pourrait dire aujourd'hui, les addictions. L'envie, avoir envie de ce que les autres ont. Dans une société de consommation, ça marche, ça, l'envie. C'est ce qui nous pousse à acheter, faire comme les autres. L'envie. L'ivrognerie. Pas se contenter d'un bon verre de vin, mais boire, et boire encore, et boire encore. Orgie, c'est faire ça en groupe. Les jeunes, attention à ce qu'on vous propose, au collège, au lycée, ou peut-être dans vos études. Viens boire un coup, viens passer une soirée avec nous. Mais quelle soirée? Qu'est-ce que vous allez faire? Et on voit comme ça un problème d'alcoolisme chronique qui augmente chez les jeunes. Parce que quand on se voit, c'est pour boire, et quand on a bu, on peut faire n'importe quoi de son corps. Et on peut se retrouver à avoir eu des relations sexuelles qu'on n'avait pas forcément voulu. On peut se retrouver violé, qu'on soit une femme ou un homme. Attention à l'ivrognerie, attention aux orgies. C'est si facile, ça va vite. Voyez, ça n'a pas beaucoup changé depuis le premier siècle. La forme est peut-être différente, mais ces choses-là sont des réalités que nous connaissons aujourd'hui. Et peut-être nous nous retrouvons nous aussi quelque part dans cette liste. Pas pour tout, évidemment, mais c'est un peu nous, ça aussi, nos comportements. Alors, nous voyons que nous commettons les mêmes péchés que les autres. Qu'est-ce qui fait la différence, alors, entre chrétiens et non-chrétiens? Paul nous donne une réponse ici dans le texte. Le chrétien ne pratique pas, c'est-à-dire ne se complaît pas dans ses comportements mauvais. C'est ce que Paul dit ici au verset 21. Je ne puis répéter que ce que je vous ai déjà dit à ce sujet. Ceux qui pratiquent de telles choses, ceux qui pratiquent régulièrement, en assumant comme quelque chose de bien ce qui est mal, ceux qui pratiquent ce genre de choses, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Entendons l'appel, l'avertissement du Seigneur. Si nous vivons dans l'adultère assumé, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Le chrétien est un affranchi, ancien esclave, aujourd'hui libre. Est-ce que nous avons gardé des traces de notre ancien esclavage? En théorie, non, mais en pratique, oui. Pour certains d'entre nous, ce sont des cicatrices. Nous voyons ces cicatrices, elles sont plus ou moins douloureuses, peut-être pas trop douloureuses, mais nous nous souvenons que nous sommes passés par telle ou telle difficulté, par telle ou telle épreuve. Pour d'autres, ce ne sont pas des cicatrices, ce sont des plaies qui saignent et qui saignent encore et qui ont besoin de soins pour cicatriser et de temps. Parfois, Dieu libère définitivement quelqu'un de l'alcoolisme ou de la pornographie. Ça arrive. Mais parfois, cela se fait par étapes, dans le temps, et ce sont des années et des années de lutte, avec des victoires et avec des échecs. Mais au final, une vie transformée par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous pouvons être aussi sûrs de cette victoire finale? Parce que Paul nous dit ici, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus un esclave, vous n'êtes plus esclave de la loi et du péché. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous rappeler lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes tentés, pour résister au diable. C'est nous dire, je ne suis plus un esclave, le Christ m'a libéré, la victoire est au bout du chemin. On voit donc là, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Et c'est pour ça que Paul nous dit, premièrement, marchez par l'Esprit. Je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent. Marchez par l'Esprit, parce qu'il y a un combat à mener, un combat rude. Mais, troisièmement, la victoire est au bout du chemin. Et elle passe, j'arrive au quatrième point, par la transformation de notre caractère. Et c'est là ce verset bien connu du verset, ce verset 22, Galates chapitre 5, verset 22. Après toute cette liste de mauvais comportements, nous trouvons une autre liste. Et Paul nous dit, mais, donc il y a une opposition, on retrouve l'opposition, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, ou la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi qui est contre les choses précédentes, elle ne s'oppose pas à ces choses-là. Au contraire, lorsque nous vivons ces choses-là, nous accomplissons la loi de Dieu. Vous voyez, la liberté chrétienne, ce n'est pas simplement une liste de choses à ne pas faire. Et c'est parfois comme ça qu'on peut comprendre la Bible. On regarde la liste des choses à ne pas faire, et puis on se dit, ah ben voilà, moi je ne fume pas, moi je ne bois pas, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela, donc je suis un bon chrétien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Disons, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ne pas faire le mal, c'est apprendre à faire le bien. Et c'est comme ça que l'on mesure, jusqu'à un certain point en tout cas, la transformation de notre vie. Jésus le dit de cette manière, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et on a là un descriptif, là encore qui n'est pas exhaustif, du fruit que nous sommes appelés à porter. Et je vous ferai remarquer que c'est un fruit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Donc on ne peut pas choisir, faire son supermarché, son marché religieux et dire, bon, alors ça je prends parce que ça j'ai besoin, puis là c'est bon, je n'ai pas besoin. Non, on prend tout le fruit ensemble. Et nous avons à progresser dans tous les aspects de ce fruit de l'esprit. Et remarquez la différence que Paul fait entre la chair et l'esprit de nouveau. Il les a opposés. Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent encore? Du côté de la chair, il y a des œuvres, il y a des actions. D'accord? Du côté de l'esprit, il y a du fruit. Ce que nous faisons lorsque nous péchons, ça ne porte aucun fruit. C'est stérile. Alors que lorsque nous aimons, lorsque nous cultivons la joie, la paix, etc., cela porte du fruit. Et cela vient remplacer ce qui est stérile et qui ne produit pas de fruit. Et là, il y a une clé. Là où il y a une clé pour notre vie chrétienne. Nous avons commencé tout à l'heure en disant que c'est le Saint-Esprit la vedette de ce texte. C'est lui qui a l'honneur. Il est mentionné 7 fois dans ce texte. Et bien là, nous avons la réponse. Qu'est-ce qui fait ce Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne son esprit? Donne son esprit à ceux qui lui appartiennent. La réponse, le Saint-Esprit met en œuvre dans la vie du chrétien, concrètement, cette nouvelle identité d'homme ou de femme libre en Christ. Croire que Jésus est mort et ressuscité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour vivre selon la volonté de Dieu. Parce que nous sommes naturellement rattrapés par notre moi qui veut reprendre les commandes. Pour être vraiment libre, vraiment chrétien, il faut que le fruit du Saint-Esprit produise en nous et remplace progressivement les œuvres de notre mauvais caractère. Le fruit de l'esprit, c'est un caractère transformé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il y a de la haine en nous, la haine de l'autre, la haine de l'étranger peut-être, croyons pas que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes à l'abri du racisme. Là où vient se loger la haine dans nos cœurs, l'esprit veut produire l'amour. Là où vient se loger le découragement, parce que le travail est dur, ou parce que nous ne trouvons pas de travail, parce que l'avenir nous paraît sombre, parce qu'on nous critique, Dieu veut mettre la joie. Là où il y a l'inquiétude, la rivalité, Dieu veut mettre la paix dans les relations. Là où nous avons tendance à zapper, Dieu veut nous aider à être patients. Là où nous avons tendance à mépriser, Dieu veut nous apprendre à être bons, gentils. Ce n'est pas une faiblesse d'être gentil, c'est une force. Là où il y a dans nos cœurs la méfiance, Dieu veut mettre la bienveillance. Là où nous sommes infidèles et où nous fuyons nos responsabilités, Dieu veut nous aider à être dignes de confiance. Dans le service du Seigneur, il n'y a pas de forfait sans engagement. Là où dans nos vies de couple, de famille, il y a des accès de colère, des cris, Dieu veut mettre la douceur. Et là où il y a des choses dans nos vies qui sont plus fortes que nous, Dieu veut nous apprendre à être maîtres de nous-mêmes. Le fruit de l'esprit. Vous voyez, c'est ça la clé. C'est en cultivant ce qui porte du fruit, ce qu'on appelait autrefois les vertus. C'est en cultivant ce fruit que les choses qui sont stériles en nous disparaissent progressivement. À la faculté de théologie, mon professeur d'éthique nous disait de temps en temps, c'est souvent les petits oui et les petits non du quotidien qui montrent que nous marchons par l'esprit ou non. Lorsque nous sommes devant un choix entre le bien et le mal, et que nous choisissons le bien, et donc que nous disons oui à Dieu, eh bien, nous facilitons le prochain oui que nous allons dire à Dieu. Au contraire, si nous sommes devant un choix éthique entre bien et mal, et que nous choisissons le mal, nous facilitons aussi le prochain non que nous allons dire à Dieu. Et nous rendons plus difficile le prochain oui. Gardons cette réflexion en tête pour finir cette prédication. Avec ces derniers versets de notre passage, je les relis, versets 25 et 26, où nous trouvons les deux dernières mentions du Saint-Esprit. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Laissons aussi l'Esprit diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. J'attire votre attention sur le « nous » ici. Paul s'inclut dans son discours. Il a dit au verset 13 « Mes frères » et puis au début du chapitre 6, que nous verrons la prochaine fois, il commence de nouveau par « Mes frères » ou « frères ». « Nous » dit Paul, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent au Christ. Et comment savoir qu'on appartient au Christ ? En regardant le fruit que porte l'Esprit en nous. Vous voyez, vivre par l'Esprit, ce n'est pas seulement une belle formule, c'est très concret. Le terme que Paul utilise ici, c'est suivre ses principes. Puisque l'Esprit vit en nous, est la source de vie en nous, alors laissons-nous diriger par lui. Vivons selon ses principes à lui, pas par les nôtres. Suivons ses directives en portant du fruit. Dans toute l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, les chrétiens ont toujours été tentés de séparer la vie par l'esprit, vivre par l'esprit, et vivre dans le monde. Et ça inclut le comportement moral. Déjà, dans la ville de Corinthe et dans l'église de Corinthe, là où on aimait les manifestations spectaculaires des dons de l'esprit, Paul doit rappeler à ces mêmes chrétiens de Corinthe qui ne sont pas dispensés d'obéir à la loi de Dieu. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, Paul rappelle aux Corinthiens « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Pourquoi continuez-vous à aller voir les prostituées. On pourrait faire la liste de tous les problèmes de l'église de Corinthe. On pourrait peut-être faire la liste des nôtres. Vous voyez ce décalage entre « je vis par l'esprit, je vois des manifestations spectaculaires » et il y a parfois des manifestations spectaculaires, il ne s'agit pas de les mépriser. Mais dire « je vis par l'esprit d'un côté et d'un autre côté dans la semaine, je fais ma petite vie sexuelle à moi », c'est juste pas possible. C'est possible parce qu'on est encore pécheur et donc on le fait en pratique. Mais en théorie, ça s'oppose. Attention à ce qui se dit au nom du Saint-Esprit, y compris dans l'Église aujourd'hui. Vivre par l'Esprit, ce n'est pas d'abord recevoir des messages du Saint-Esprit sur notre répondeur spirituel, que ce soit par des songes, par des paroles de connaissance, par des intuitions ou même par des convictions particulières. Ça aussi, ça existe, et il faut lui donner sa place. Mais ce n'est pas d'abord comme cela que le Saint-Esprit parle. Vivre par l'Esprit, c'est vivre selon les principes moraux du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous voyons dans notre texte aujourd'hui. C'est cultiver jour après jour, et pas comme ça de temps en temps sous le coup de l'émotion ou de l'intuition du moment. C'est cultiver jour après jour le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Attention au danger d'une sorte de télépathie spirituelle, je vais l'appeler comme ça, entre le Saint-Esprit et moi. Une sorte de connexion directe avec Dieu qui viendrait remplacer la connaissance de la parole de Dieu. L'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit ne sont jamais séparées, mais elles travaillent ensemble. Il y a quelques années, j'ai vu un reportage, je crois que c'était dans l'émission Présence protestante, d'une grande église évangélique sur Paris. Et le pasteur, un des pasteurs de cette église qui était interviewé, expliquait comment il avait, pendant des années, étudié la Bible et que maintenant, il estimait avoir les connaissances suffisantes. Et donc, il avait laissé progressivement de côté l'étude de la parole et il avait là aussi progressivement donné davantage de place à la méditation. Et donc, dans l'interview, on le voyait allongé sur son canapé, probablement dans son bureau pastoral, et il était là à méditer. Pourquoi pas ? Mais attention de ne pas séparer ce que l'Esprit peut nous dire dans notre méditation et ce que nous dit la parole de Dieu. Depuis quand est-ce que nous pouvons nous passer de la parole ? Depuis quand sommes-nous déjà suffisamment instruits pour nous dire « C'est bon, la Bible, je connais, je laisse ça de côté, et maintenant l'Esprit me parle à moi. » Mais alors, pourquoi l'Esprit a-t-il parlé pendant des milliers d'années et se révéler au travers de ce livre ? Alors c'est vrai que c'est un gros livre, la Bible, et qu'on aime moins lire aujourd'hui. Et c'est peut-être plus facile d'être en connexion directe, le Saint-Esprit et moi, que de se farcir ce gros bouquin poussiéreux qui a des années, des milliers d'années. Mais c'est comme ça que Dieu se révèle. Toute l'Écriture est inspirée. C'est l'Écriture qui est inspirée. Et les messages du Saint-Esprit ne peuvent en aucun cas contredire l'Écriture. Jamais le Saint-Esprit ne travaille sans la parole de Dieu. Je relis les versets 25 et 26, et c'est là que nous reprendrons notre série de prédications dans quelques semaines. ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié... Ah, ça c'est verset 24, pardon. Verset 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Je résume. Paul nous invite ici, et Dieu au travers de la parole de Paul, à marcher par l'Esprit. L'Esprit nous aide à combattre pour rester libres, parce que nous appartenons au Christ. Si nous appartenons au Christ, nous sommes libres. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu agit ? Il agit en transformant notre caractère, jour après jour. Alors, ne disons pas seulement « l'Esprit est là », mais suivons ses principes et tendons vers une vie, si vous me permettez l'expression, pur jus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te demander ta grâce à nouveau. Seigneur, tu connais nos parcours, tu sais où nous en sommes ce matin, avec toi et les uns avec les autres. Transforme-nous, Seigneur. Nous voyons dans ce texte ce matin que être transformé par ton esprit, c'est pas quelque chose comme ça qui plane au-dessus de nous. C'est des changements concrets dans notre caractère. Tu sais ce qu'il y a à transformer. Aide-nous à cultiver l'amour, la joie, etc. Que ce soit une réalité dans nos vies et que les autres autour de nous puissent voir que nous portons du fruit, que ça les interpelle et qu'ils puissent dire « Waouh, moi aussi je veux goûter ce fruit-là ». Tu connais aussi nos luttes, nos combats, là où il y a encore du poison dans nos vies. Continue ton œuvre et que ton Esprit Saint purifie nos vies pendant cette semaine. C'est notre prière et nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen.